Évangile et liberté.
L'émission mensuelle du protestantisme libéral.
Évangile et liberté est le mensuel du protestantisme libéral. Évangile et liberté, ou encore penser, critiquer et croire en toute liberté. Deux numéros d'Évangile et liberté sont envoyés gratuitement à tous ceux qui en font la demande au numéro de téléphone suivant 09 53 43 45 71. Pour cette émission de rentrée, je vous propose, auditeurs, auditrices, une conversation avec un fidèle de la pensée libérale, membre de l'Église protestante unie de Montpellier, M. Robert Meyer. Bonjour Robert.
Bonjour Guylaine.
Merci Robert de me recevoir chez vous pour cette émission d'Évangile et Liberté. Et nous avions envie, je vous ai sollicité pour évoquer avec vous ce que représente le protestantisme libéral. Peut-être on pourrait commencer d'abord par savoir comment est-ce que vous vous êtes intéressé au protestantisme libéral.
C'est très simple, je suis né dans une famille protestante libérale qui était très attachée au docteur Albert Schweitzer, qui est très connu, prix Nobel, etc. etc.
Prix Nobel de la paix.
Professeur de théologie à la Faculté de Strasbourg, et qui a créé en Afrique donc un hôpital.
Voilà, le centre Lambaréné.
Voilà, le centre Lambaréné.
Oui, oui. Mais à votre accent, je devine que vous n'êtes pas originaire de Montpellier.
Non, je suis originaire d'Alsace, comme Albert Schweitzer.
Oui. Mais vous l'avez connu, Albert Schweitzer?
Oui, je l'ai connu, parce qu'il était aussi organiste, il jouait très bien l'orgue. Et alors, j'ai plusieurs fois entendu jouer l'orgue, je l'ai même reçu chez nous. Pas moi, mes parents l'ont reçu chez eux.
Alors, vous disiez que votre famille était libérale. Le protestantisme libéral en France a commencé dans les années 1870, en tout cas le journal. Et ils étaient libéraux dès le départ, alors.
C'est-à-dire que mon parrain est un... qui est aussi mon oncle, est un protestant libéral qui a créé un musée Albert Schweitzer à Kaisersberg. Donc tu vois, effectivement, on est très attaché à Albert Schweitzer.
Alors c'est parce que vous êtes né dans cette famille que vous vous êtes dit, le protestantisme libéral, c'est aussi pour moi?
Je suis tombé dedans, quoi. Mon parrain était protestant libéral, un pasteur et protestant libéral. Évidemment, tout ce qu'il me racontait, c'était dans ce sens-là.
Alors, justement, quelles sont les idées qui sont libérales dans le protestantisme qui vous font encore vibrer, qui vous disent « encore aujourd'hui, c'est valable, c'est à ça que je crois ».
C'est valable. En fait, moi, le protestantisme, d'une façon générale, la religion, et pour moi, ce n'est pas demander à Dieu de me... m'enlever mes péchés, c'est de m'aider à faire quelque chose. C'est un peu comme Albert Schweitzer. Lui, il était professeur de théologie. Il voulait faire un hôpital en Afrique. C'est ça qu'il voulait faire. Je ne sais pas si j'ai hérité d'Albert Schweitzer, mais en tout cas, et toute ma vie, j'ai essayé de faire quelque chose. Et en fait, mon parrain, qui est donc mon oncle aussi, et quand il m'a baptisé, il a pris comme texte évangile et un texte bien, bien connu, qui est le suivant. Jésus dit à ses disciples, si vous avez un tout petit peu de foi, seulement gros comme une toute petite graine de semence de moutarde, et que vous dites à cette colline, déplace-toi d'ici là-bas, elle se déplacera. Alors, ce texte-là, je m'en suis servi tout le temps. Dernièrement, enfin, il y a quelques années, quand j'ai créé le cercle Évangile et Liberté de Montpellier,
il y a 5 ans, en 2014, par là.
Oui, j'étais président pendant 3 ans, et puis depuis, quand j'ai 90 ans, j'ai la présidence à quelqu'un d'autre, et donc ça fait à peu près 5 ans que je fais ça. Alors bon, effectivement, et pour moi, le protestantisme libéral, c'est surtout une question d'action. Parce que ce que je veux faire, ce que j'ai toute ma vie essayé de faire, c'est d'agir. Parce que finalement, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens et pour aller tous les dimanches demander à Dieu « Aie pitié de moi, je pardonne mes péchés ». En fait, moi, je ne pense jamais au péché. Absolument jamais. Enfin, jamais.
Vous êtes dans la grâce perpétuelle.
Pas jamais, c'est tout à fait vrai. Quoi. Effectivement, j'ai comme tout le monde. De temps en temps, effectivement, on se pose quelques petites questions. Mais en fait, mon problème n'est pas celui-là. Mon problème, c'est quand je veux faire quelque chose, et j'essaye que Dieu m'aide. J'essaye d'avoir la foi dans la chose et en Dieu pour que ça marche. Voilà. Alors, donc... au fond, le protestantisme libéral, c'est quoi cela, quoi.
Et pourtant, on sait bien que dans le protestantisme, ce ne sont pas les œuvres.
Tout à fait, tu as tout à fait raison.
Qui sont importantes.
Luther avait redécouvert ce truc-là. C'est qu'en fait, ça vient de Jésus qui a promu ça, qui a dit « Vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi ». Alors effectivement, c'est exact, tout à fait exact. Mais au fond, je ne me demande pas, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas en vue d'un salut, je le fais pour le faire. Voilà. Alors donc, effectivement, c'est vrai, ce que tu dis est tout à fait vrai. Quoi.
Alors, vous avez créé le cercle Évangile et Liberté, le cercle Montpellierin, et vous avez été aussi prédicateur.
Ah oui, j'étais longtemps prédicateur pendant des années, pendant plusieurs dizaines d'années. Quoi.
Alors, est-ce que c'était pour vous une façon de faire passer ces idées, ou est-ce que vous
non,
étiez...
Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Non, quand, en fait, les conclusions auxquelles arrivent les protestants libéraux ne sont pas du tout compatibles avec ce qu'on enseigne normalement dans le catéchisme, ni ce qu'on prêche normalement dans les églises protestantes. Et donc, quand j'étais prédicateur, j'étais protestant, et au contraire, j'essayais de faire en sorte que les gens ne soient pas choqués. Et donc, si je dis maintenant qu'il est infiniment peu probable qu'Abraham ait existé, évidemment, je ne dirais pas dans une prédication. Mais effectivement, c'est une chose différente. C'est une action à faire. Et c'est une action à faire. Et quand on veut faire une action, il faut que le résultat soit compatible, soit bon, quoi. Alors, le résultat n'aurait pas été bon si j'avais insisté sur la question.
Vous croyez qu'ils se seraient détournés de leur foi?
Il y avait un risque. Il y avait un risque, et ce risque, je ne voulais pas courir, quoi. Et d'ailleurs, effectivement, ça aurait été normal et qu'on m'ait rayé de la liste des prédicateurs laïcs, c'est sûr, quoi. C'est même certain, quoi.
Ouais.
Parce qu'une fois, effectivement, il m'est arrivé un petit truc. Et j'ai prêché sur, les rois mages. Alors, les rois mages avaient dit seulement un mot et qui avait choqué des gens, d'ailleurs, en disant que les rois mages, pour pas évident que ça existait. Enfin, bref, je ne pas dire ça comme ça, mais enfin, ça transperçait que les rois mages étaient une légende, quoi. Alors bon, et seulement le fait d'avoir dit un mot a fait qu'il y a des personnes qui sont allées voir le pasteur et qui ont dit au pasteur, bon, attendez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a des gens dans la Bible. Alors, bon, donc,
ouais. Mais alors, quelle qualité faut-il avoir ou quel type de foi faut-il avoir pour accepter le libéralisme dans sa foi, finalement?
Ah ben ça je ne sais pas, moi je l'ai parce que je suis né là-dedans, quoi, je suis tombé dedans, quoi.
Mais ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas hésiter à ne pas croire tout ce qui est dit dans la Bible.
Ah ben non, mais attends, ne pas croire, attends, il est bien évident que personne, enfin, j'espère que personne ne croit réellement à ce qui est la Genèse, ce qui est parlé dans la Genèse. Et Abraham et Ève, ça m'étonnerait qu'il y ait encore que des gens qui y croient. Mais tout le monde sait que il y a des choses qui... Et bien en plus, il y a tout à fait autre chose, c'est que les évangiles... Pourquoi il y a quatre évangiles? Pourquoi le synode a accepté de mettre quatre évangiles? Parce qu'ils se sont dit, les évangiles ne sont pas exactement pareils, ils ne disent pas la même chose. Et donc, il en faut quatre pour bien montrer que les évangiles, au fond, le fait qu'il y ait quatre évangiles montre deux choses. D'abord, que les évangélistes ne sont pas tout à fait dans l'exactitude historique, d'ailleurs que ce n'est pas le rôle, et puis et d'un autre côté qu'on peut effectivement interpréter plusieurs façons différentes de la même chose, quoi, c'est sûr. Quoi. Et donc le concile qui a accepté les quatre évangiles a très bien fait, quoi, c'est sûr. Quoi.
Oui. Le libéralisme dans le protestantisme semble être encore un mouvement minoritaire du protestantisme,
bien sûr, me semble.
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait le développer plus
et que
société évoluant, est-ce qu'on y a des voilà il y a des notions historico-critiques que maintenant la société accepte par rapport à la Bible.
Tout à fait, justement la Genèse, l'histoire de la Genèse nous montre bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui pensent que la Bible n'est pas une histoire historique, quoi, ce n'est pas un récit historique, quoi.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce mouvement soit plus ample, soit plus accessible parmi les chrétiens? Ou bien ce n'est pas une priorité pour vous, après tout?
Ce n'est pas une priorité. Enfin, non, ce n'est pas une priorité du tout. Parce qu'effectivement, je pense que les chrétiens sont multiformes. Il y a des gens qui aiment bien prendre la Bible au pied de la lettre et le prendre comme littéral. Et il y a des grandes églises, d'ailleurs américaines et françaises, d'ailleurs, et qui sont dans le littéralisme, et bien, il faut les laisser faire. Quoi. Je ne vois pas pourquoi on les brutaliserait. Quoi. Et alors donc, à mon avis, le protestantisme libéral est une des façons d'être chrétien. Quoi.
Parmi les figures que vous avez, qui sont pour vous des, on va dire, je ne sais pas si je peux employer le terme de modèle, Albert Schweitzer, comme maître à penser aussi peut-être, est-ce qu'il y aurait d'autres figures du protestantisme qui seraient équivalentes ou en tout cas importantes?
Ben, il y en a beaucoup. Il y a Schleiermacher ou des gens comme ça, ou même, n'ayons pas beaucoup plus loin, et le professeur André Gounel à Montpellier, que tout le monde connaît, et qui était président des libéraux pendant un certain temps. Et donc effectivement, il y a toutes sortes de gens qui sont des libéraux, des phares dans le libéralisme, quoi, c'est sûr. Quoi.
Alors, vous êtes donc protestant libéral, adhérent au mouvement Évangile et Liberté, Robert Mayer. Est-ce que vous lisez le mensuel Évangile et Liberté?
Bah, évidemment, je suis abonné depuis très longtemps. Je ne dirais pas depuis le début, mais depuis...
Presque avec vos parents, peut-être, ils étaient abonnés.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a des plumes qui vous conviennent plus que d'autres, ou des articles, ou des chroniques sur lesquelles vous allez tout de suite lire, que vous allez tout de suite lire?
Oui, effectivement, il y a dans l'Évangile Liberté, c'est comme partout, il y a des articles et qui m'intéressent, mais d'autres qui ne m'intéressent absolument pas, qui sont complètement, à mon avis, en dehors de la plaque. Mais c'est normal. Chez les chrétiens, il y a différentes sortes de gens. Alors donc, il faut pouvoir satisfaire tout le monde. Et donc, il y a des articles qui ne me plaisent pas, que je trouve un peu... pas intéressant du tout, mais il y a d'autres personnes qui le trouvent très intéressant, donc il n'y a pas de raison qu'on les enlève. Quoi.
Et vous commencez à lire Évangile et Liberté par quel article?
Ah ben, je regarde le sommaire, et dans le sommaire, il y a toujours des articles dont le titre me plaît, mais ça ne veut pas dire que l'article me plaît. Je regarde le titre, alors le titre me font lire l'article. Et puis parfois, je dis, ben non, ça ne fait d'accord, maman. Et oui, il y a des trucs qui sont intéressants. Par exemple, il y a une rubrique où on parle de choses qui sont étranges, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Oui, les mots difficiles.
Hein. Voilà. Alors effectivement, cet article est souvent bien fait. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont très difficiles à comprendre et à saisir. Et effectivement, essayer de l'expliquer d'une façon ou d'une autre, c'est très bien.
Merci, Robert Mayer. Thank you.
C'est la péricole d'Offenbach qui fait la transition entre notre entretien avec Robert Meyer, membre du mouvement protestant libéral et montpelliérain, une transition donc avec la lecture du numéro d'Évangile et Liberté des mois d'août et septembre. Le dossier de ce numéro est rédigé par les deux historiens Marc Liénard et Pierre-Olivier Leschaud. Marc Liénard analyse la doctrine de Martin Luther sur les relations entre les chrétiens, l'Église et l'État. Pierre-Olivier Leschaud, quant à lui, commente le dossier en titrant « Il n'y a pas de morale chrétienne », un titre que Pierre-Olivier Leschaud argumente. En effet, dit-il, les œuvres accomplies en dehors de cette conviction qu'est la foi resteront toujours aussi vides aux yeux de Dieu, aussi marqués du sceau du péché que les œuvres accomplies par un non-chrétien. Le chrétien qui se demande comment agir ne peut se fonder sur aucune norme, aucune prescription, aucun code qui lui serait donné. Il doit simplement regarder la réalité telle qu'elle est, dans la foi, et prendre sa décision avec confiance en situation. Les propos que tient Pierre-Olivier Leschaud dans ce mensuel « Évangile et liberté » des mois d'août et septembre, ses propos sur Martin Luther entrent en résonance avec le témoignage de Robert Meyer dans cette première partie d'émission. L'éditorial de James Woody porte sur l'écologie. L'écologie est un sujet éminemment théologique, nous dit-il. La théologie doit s'intéresser de près à ce que l'écologie permet d'interroger et de remettre en cause quant à son fond de vérité. Et la vérité, c'est l'affaire des théologiens. Je vous invite à lire l'article de Jacques Julliard qui pose la question de notre identité. Qu'est-ce qui demeure à travers le temps que je pourrais appeler moi ? Se demande Jacques Julliard. Jacques Julliard était pasteur. Jacques Julliard, en poète, ici, propose que ce soit le vent qui ferait de sa vie la durée. Le vent qui passe, qui traverse son existence et dans lequel il croit discerner le grand souffle de Dieu. Toujours dans ce numéro d'Évangile et Liberté des mois d'août et septembre 2019, je relève une thématique relativement peu abordée dans Évangile et Liberté. La thématique qui serait une façon de parler de Dieu aux enfants. La tribune est signée Gilles Castelnau et Gilles Castelnau suggère qu'il faut parler de la force qui les habite, du courage qui les soutient, de la fraternité qui les rend sympathiques et du sourire qui anime nos enfants, du dynamisme qui les rend capables de faire du bien autour d'eux. Cette source qui abonde, c'est Dieu, nous dit Gilles Castelnau. Rappelons-nous, et cela c'était avant l'été, du premier article sur le Conseil presbytéral signé par James Woody, où il disait « Combien c'est le rôle du conseiller presbytéral de faire de la théologie ?» Le deuxième volet de cette série sur le Conseil presbytéral est signé par Marie-Noël Duchesne et porte là sur le statut de conseiller de paroisse. Marie-Noël Duchesne, elle-même, qui fut longtemps conseillère presbytérale et qui peut-être l'est toujours en région parisienne, Marie-Noël Duchesne insiste sur la nécessaire formation du conseiller, de la conseillère, insiste aussi sur le travail en communauté. Et elle reprend la proposition de James Woody, « Régler les affaires courantes d'une paroisse ne demande pas d'oublier la spiritualité ». Chaque année, le deuxième week-end d'octobre, se déroulent les journées d'Évangile et Liberté à la Grande Motte. Pour cette 52e édition, il sera question de l'humain. Sur ces deux jours, quatre conférences tentent une réponse à la question « Qu'est-ce que l'humain ?». Le samedi 12 octobre à partir de 10h, l'historienne et directrice de recherche au CNRS, Marilène Patou-Matisse, propose le regard d'une préhistorienne. Frédéric Rognon, théologien, pasteur, professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, s'intéresse à l'humain, le transhumain, le post-humain. Quels enjeux éthiques, théologiques et politiques de l'augmentation de l'homme ? Joël Nicolas, médecin en cancérologie infantile, se met à l'écoute des besoins de l'être humain, enfant et adulte, en fin de vie. Philippe Pedro, professeur de droit et membre de l'association internationale Droit éthique, s'interroge sur la place de l'humain dans une société connectée. Le culte du dimanche est présidé par la pasteur Ticia Esbanti. Laurent Gagnebin prendra la suite après le déjeuner. Laurent Gagnebin est théologien, fut pasteur, fait un exposé sur humanité de Dieu et divinité de l'être humain. Et le dimanche à 15h, Jean-Marie de Bourconnais, pasteur, fait l'envoi de ces journées. Comment assister à ces journées ? Plusieurs formules. Soit vous souhaitez venir dès le vendredi soir et y rester jusqu'au dimanche, nourri, logé au bel embras de la Grande Motte. Et le prix est un tarif forfaitaire autour de 290 euros. Soit vous venez pour une journée et vous n'avez pas besoin ni de dormir ni de manger sur place. À ce moment-là, cela vous coûte 30 euros. Quoi qu'il en soit, et pour toute question, n'hésitez pas à appeler Jean-Claude Martin au 06 62 47 12 95 ou tout simplement aussi, il est possible de consulter le site internet d'Évangile et Liberté. Ainsi s'achève notre émission Évangile et Liberté de ce mois de septembre. Je remercie encore Robert Mayer, membre de ce mouvement et membre aussi de l'Église protestante unie de Montpellier, de m'avoir accueilli pour évoquer ses convictions chrétiennes. Et n'oubliez pas, c'est le 09 53 43 45 71 qu'il faut composer pour recevoir le journal Évangile et Liberté à votre domicile. Au revoir.